COP25. Avec Léa Salamé, nous recevons deux invités ce matin dans le grand entretien du 7-9. L'un est photographe, l'autre militant écologiste au sein du mouvement des Gilets citoyens et membre du comité de gouvernance de la fameuse convention sur le climat, la convention des 150 citoyens français qui plonge jusqu'en janvier prochain. Voilà, j'y arrive. Mathilde Himmer, bonjour.
Bonjour.
Yann Arthus-Bertrand, bonjour.
Bonjour.
La COP, son utilité, ses limites, on y vient tout de suite. Mais d'abord une question pour vous, Yann Arthus-Bertrand. Qu'apprend-on hier que l'homme de la Terre, vu du ciel, du Maroc, de la Turquie, de la Bretagne, de l'Égypte, de Paris, vu du ciel, que le voyageur infatigable, celui qui nous a donné les plus belles images possibles de la nature, sa beauté, sa fragilité, eh bien que cet homme a décidé qu'il ne prendrait plus l'avion. Expliquez-nous, Yann Arthus-Bertrand, vous arrêtez parce que vous avez photographié tous les pays de la Terre et donc vous n'avez plus besoin de vous envoler, ou parce qu'il y a eu chez vous une prise de conscience?
Parce que j'étais un peu l'exemple de l'incohérence dans laquelle on est tous.
Expliquez-la.
On continue à manger de la viande en se disant c'est pas grave, on sait que c'est responsable de la déforestation, mais on verra bien. On mange pas bio alors qu'on sait que les pesticides ont détruit 30% des oiseaux en France et 80% des insectes volants. Et c'est vrai que j'étais à New York la semaine il y a quelques temps, je lisais un truc sur Greta. Il y a un petit bouquin génial sur Greta Thunberg qui est pour moi comme une sainte. Si l'écologie c'est une espèce de religion, une foi.
Vous avez dit c'est le miracle que je n'attendais plus,
parce
Greta Thunberg.
Ce que réussit à faire cette fille à 16 ans, à mobiliser ces millions de personnes, c'est jamais arrivé. C'est la personne qui aujourd'hui nous fait tous réfléchir. Et surtout, elle a ce côté complètement radical qu'on devrait tous avoir. Moi, j'aurais dû arrêter l'avion depuis longtemps. Vous savez, si vous devez respecter les accords de Paris, en 2050, chaque Français devra émettre 2 tonnes. Aujourd'hui, on émet chacun 12 tonnes, en gros. Et un aller-retour Paris-New York, c'est 1,5 tonne. Donc voilà, quelque part,
pour vous, personnellement.
À 73 ans, j'aurais dû le faire avant, et j'en suis pas fier de... Voilà, je fais modeste, parce que j'ai quand même émis énormément de carbone dans ma vie.
Donc c'est fini, il n'y a plus... Vous arrêtez s'inédier, quoi.
Oui,
ça commence aujourd'hui.
Oui. Non, ça a commencé la semaine dernière.
Vous ne prendrez plus l'avion.
Ouais.
Du tout.
Je vais essayer, oui, bien sûr.
Ouais.
Tout le monde me dit pas ça. Si jamais tu reprends l'avion, tu vas te faire. Surtout, ne dis pas que c'est définitif. J'espère que
ça. C'est certain.
J'espère que ça.
Ça, on vous prend pas.
J'espère que ça va être définitif. Oui, voilà.
Vous le disiez vous-même, dans les années 2000, vos émissions de télévision aux quatre coins de la planète produisaient aussi de grosses émissions CO2. Mmh. Vous avez toujours dit à l'époque que cette pollution était compensée par des initiatives environnementales, qu'elles étaient compensées carbone. Bonne, comme
oui,
vous disiez, vous aviez popularisé ce terme. Est-ce que ça vous semble dérisoire aujourd'hui, ça?
D'abord, on fait la compensation carbone solidaire. On aide des gens à avoir de l'énergie. Nous, par exemple, on construit 20 à la Fondation Good Planet. On est un peu les spécialistes de ça. On construit 25 000 réservoirs de biogaz, c'est-à-dire qu'on fournit de l'énergie à des gens qui n'en ont pas. C'est mieux que de rien faire. Mais moi, je me souviens quand on a monté ça, juste d'ailleurs pour les émissions de télévision, c'est vraiment moi qui est vraiment le premier qui a voulu faire de la compensation carbone. Je pensais que tout le monde le ferait, ça serait évident. Enfin, en compte, très très peu de personnes le font. Tout le monde s'en fout un petit peu.
Mathilde Himmer, cette idée de compensation des compagnies aériennes comme Air France ou d'autres les proposent. Hein. Les émissions carbone sont contrebalancées par le fait de planter des arbres ou de protéger les forêts. C'est cosmétique et déculpabilisant ou vraiment utile selon vous?
Je pense qu'on est à un moment où en effet on est tous dans une dissonance cognitive énorme et donc ce genre de proposition arrive sur la table parce qu'on essaie de trouver une transition douce. Moi je pense qu'il y a une époque où ça avait son sens. On a trop tardé à faire la transition écologique. On a tellement tardé aujourd'hui qu'on est obligé d'avoir un changement dit radical. Radical, ça veut pas dire violent, ça veut dire prendre le problème à la racine, donc changer profondément le système. Donc ce genre de proposition, à mon sens, pour moi, c'est pas suffisant. Néanmoins, je pense qu'il faut entraîner l'ensemble de la société, et donc c'est très important de pas balayer d'un revers de main tout ce que des acteurs, pour qui c'est plus compliqué d'avancer, essaient de mettre sur la table.
Mais à quoi ça sert d'arrêter de prendre l'avion ou d'essayer de planter des arbres quand on prend l'avion, quand on sait que l'ensemble des vols de l'aviation civile en 2018 représentait seulement 2,4% de toutes les émissions de gaz à effet de serre? Donc si plus personne ne prenait l'avion, il resterait 98% du problème. C'est toujours la même question, c'est la question des petits gestes au fond. On pourrait tous arrêter de prendre l'avion, mais s'il reste 98% des émissions de CO2, à quoi ça sert?
C'est vrai, arrêter de prendre l'avion, c'est pas suffisant. Néanmoins, c'est symbolique. Quand Einstein disait « on ne résout pas un problème du niveau de conscience duquel on l'a créé », c'est exactement ça qu'on vit. C'est comment est-ce qu'on change les codes de réussite de la société. C'est ça que fait Greta, c'est ça que font les jeunes, que ce soit en se mettant en grève, que ce soit en faisant de la désobéissance civile, que ce soit avec Super Local, en dénonçant des projets climaticides, que ce soit on est prêt avec des messages de communication sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement dire « on ne veut plus d'un monde dans lequel on nous vend beaucoup de biens et peu de joie, et surtout beaucoup de peur, parce qu'on a peur pour notre avenir. Si votre jeunesse, elle est aussi active, si on est aussi actif, c'est parce qu'on a très peur. Et l'action nous permet de transformer cette peur en quelque chose de positif.
Yann Arthus Bertrand.
Ça sert aussi à se sentir meilleur. Vieillir, c'est aussi c'est grandir, c'est faire les choses de mieux en mieux. Et ça sert, je fais ça, je deviens végétarien. Il y a des choses qui sont importantes et qui on fait ça pour vous, en fin de compte.
Quand on est au-delà, dites-vous, Mathilde Himmer, des gestes symboliques, ça ne suffira pas. Vous dites, il faut des approches beaucoup plus radicales. Vous pensez à quoi, par exemple? Violente, hein, vous avez dit, mais radicale, à la racine. Vous pensez à quoi?
Je suis pas en position, moi, j'ai 29 ans, de dire ce qu'il faut faire. Par contre, ce en quoi je crois profondément, c'est que c'est aux citoyens de placer le curseur. On sait très bien que les gouvernements du monde entier sont face à un énorme challenge qui est de résoudre cette crise climatique. Quand on regarde sérieusement, comme le disait Yann il y a un instant, ce qu'il faut faire pour limiter le changement climatique, c'est arrêter de prendre l'avion, c'est à manger beaucoup moins de viande, c'est beaucoup moins de bagnoles demain dans les rues. C'est un changement structurel. Les gens, aujourd'hui, sont pas prêts parce que le vivent comme quelque chose de liberticide. Comment est-ce qu'on arrive, nous, à changer les codes de réussite et à placer le curseur au bon endroit? C'est ça, l'objet de la Convention citoyenne pour le climat.
Ça a changé, non? Vous trouvez que c'est encore vécu comme liberticide?
En partie, par une partie de la population. Moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes qui fait aussi que cette Convention citoyenne, aujourd'hui, elle existe, c'est un exemple. Les Gilets jaunes, pour moi, tel que je l'interprète, de là où je suis, c'est les premiers piégés d'une transition écologique qui n'a que trop tardé. C'est des gens, et moi j'en ai rencontré plein, parce que quand ça a émergé, en tant que militante écolo, je suis allée écouter, voir ce qui se passait. Et la réponse que j'ai eue, c'est des gens qui ont envie de faire cette transition écologique, mais qui n'en ont pas les moyens.
Et vous avez créé le mouvement des Gilets dits citoyens.
Exactement. Qui est un mouvement qui rassemble Gilets jaunes, écolos, experts d'innovation démocratique, qui ensemble œuvrent pour faire en sorte que ce soit les citoyens qui aient la main sur la transition écologique.
Non, mais ce qu'il faut savoir,
Yann Arthus Bertrand.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a perdu cette bataille contre le changement climatique. Il faut l'accepter. Il faut savoir ce qui va arriver. Bien sûr, tous ces rapports du GIEC qui s'empilent les uns sur les autres, vous lisez les journaux comme moi quand même. L'année dernière, l'appel des 20 000 scientifiques, on va vers la sixième extinction. Vous savez, on a atteint aujourd'hui la concentration de carbone de l'atmosphère comme il y a 4 millions d'années. À l'époque, il y avait des arbres en Antarctique. À l'époque où la mer avait monté 17 mètres. Regardons la vérité en face. Le dernier rapport de météo des Nations Unies, ils le disent très clairement. Donc, cet espoir, en fin de compte, on est piqué au génie humain, on est persuadé qu'on va trouver quelque chose. Non, on ne peut pas se battre contre cette religion de la croissance qui fait avancer le monde, on n'y arrive pas.
Vous dites qu'on a perdu contre la bataille du réchauffement climatique, mais vous n'êtes pas un collapsologue, pour autant vous ne pensez pas que c'est la fin du monde demain.
Mais c'est la fin d'un monde, c'est un monde nouveau à inventer, un monde avec plus de réflexion, d'intelligence, de responsabilité personnelle. Qu'est-ce que moi je fais? Arrêtons de penser que c'est la faute de Trump qui a quitté l'accord de Paris, du président brésilien. C'est moi qui est en quête aujourd'hui. Moi, en tant que personne qui doit changer. Et c'est pour ça que cette convention citoyenne est formidable. Parce qu'elle va à la racine, à la base.
Ça sert à quoi, les COP? On est sur la COP25. On vous a invité pour parler de la COP25.
Ça a beaucoup servi à mettre en avant tous ces problèmes. Mais tous ces gens qui arrivent en avion, tous ces gens qui consomment de l'avion, c'est un peu du blabla. Et aujourd'hui, en visioconférence. Est-ce que vous imaginez que dans l'accord de COP de Paris, il n'y a pas le mot fossile? Il n'y a pas le mot pétrole, sinon les pays producteurs n'auraient pas signé l'accord. Vous imaginez ça?
Ça sert à quoi, les COP, Mathilde Himmer?
Yann Arthus Bertrand dit maintenant ça ne sert plus à rien. Ouais. Vous dites non, ça, mais on a lu ça dans une interview que vous avez donnée il y a deux jours.
Je l'ai dit un peu vite, mais chacun fait son rôle.
Mathilde Himmer.
Je crois que chacun essaie de faire sa part. Voilà. Il y a 4 ans, il y avait la COP21 à Paris. On a signé, les États du monde entier ont signé un accord qui nous mettait sur une trajectoire de 3 degrés et qui mettait surtout en place un processus, une mécanique pour rehausser l'ambition d'année en année et nous permettre peut-être d'arriver à 2 degrés ou 1,5 degré. Moi, je faisais partie à l'époque de l'équipe de Laurent Fabius et de Laurence Dubiana. Donc, je dis pas que les COP, ça sert à rien. Néanmoins, je pense que ce qui est très important, c'est que les COP toutes seules vont pas résoudre la question du changement climatique. C'est, je sais pas pourquoi on en fait l'objet numéro un. Oui, c'est des négociations internationales, c'est là où les États doivent prendre leurs responsabilités. Mais ça se joue aussi à notre échelle et au niveau national. Et c'est là où on voit le lien entre la Convention citoyenne pour le climat et la COP25. C'est que la COP25, son enjeu, c'est quoi? C'est de commencer un processus où on rehausse l'ambition de chacun des États. Si chacun des États fait pas le boulot en interne, bah, ça
c'est
sert
ce
à rien.
Personne.
Ça sert à rien.
Personne ne le fait.
On va voir. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est-à-dire que j'ai mon avenir qui est devant. J'ai pas envie de dire, la lutte contre le changement climatique, elle est déjà perdue. Je pense, en effet, qu'il faut être lucide et se préparer non seulement à limiter le changement climatique, mais à vivre avec un certain nombre de ces impacts.
Et ça, c'est un point important de dire, soit comme Yann Arthus-Bertrand, c'est perdu, c'est mort, ou dire, comme vous le faites vous, je ne veux pas y croire encore. Accordez vos violons.
Bah, je pense que l'accord des violons, il est simple. C'est-à-dire que un monde à 2 degrés ou un monde à 4 degrés, ça n'a rien à voir. Moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et je crois qu'on est très nombreux, et c'est le message des jeunes, hein, pour dire, le moindre centième de degré qu'on peut gagner, on mettra tout ce qu'il faut pour le gagner. Parce qu'un monde à 2 degrés, c'est un monde dans lequel on peut s'adapter. Il faut se préparer à s'adapter. Et même un monde à 3 degrés, si on arrive à là, il faut qu'on se prépare à s'adapter. Par contre, un monde à 4 degrés, c'est juste invivable. Déjà,
c'est quoi? Dites-nous, c'est quoi un monde?
Pour moi, un 4 degrés, c'est un monde, c'est ce que disaient les scientifiques, c'est un monde de guerre, où il y a des morts, et où il y a une grande partie de la population, et les plus précaires, qui vont y passer les premiers, si vous me permettez l'expression. Donc moi, j'ai envie d'éviter ça, je ferai tout ce qu'on peut, même si je suis d'accord avec Anne qu'il faut être lucide.
Yann Arthus Bertrand.
Que ça soit un monde à 3, 4 degrés, on dit, on parle même de 7 degrés. Et qu'est-ce que je fais du temps qui me reste en arrivant à cette date? Ben, est-ce que je peux redevenir un être humain responsable? C'est tout simple, c'est basique.
Oui, redevenir un être humain responsable, c'est vrai que vous dites, enfin, la bataille culturelle de l'écologie a été gagnée. Ces derniers mois, on n'a jamais autant parlé d'écologie, on n'a jamais autant parlé du réchauffement climatique. Et en même temps, le Black Friday, la semaine dernière, eh bien, le Black Friday a été un immense succès. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion sur le fait, alors qu'on dit non, il faut n'allez pas acheter, le gouvernement s'engage, non, n'allez pas acheter parce que ça va polluer, ça contribue au réchauffement climatique d'acheter tous ces vêtements pas chers, etc. Qu'est-ce que vous dites quand les gens disent,
ben, Yann Arthus Bertrand puis Mathilde Dimer.
Je voulais m'acheter un aspirateur. Et ben, comme un con, j'étais sur mon téléphone le jour du Black Friday, regardais s'il y avait un aspirateur moins cher. Et même moi, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai jeté mon téléphone sur le fauteuil, je suis ridicule. Voilà, on est tous dans ces contradictions permanentes.
Mais vous êtes ridicule, comme, enfin, vous dites, je suis ridicule, mais parce que vous avez les moyens. Il y en a, tu sais,
vrai,
pour beaucoup
vrai.
De gens, le Black Friday, ça leur permet aussi de s'acheter des choses qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter. Et est-ce que c'est pas obscène de les regarder en leur disant,
je suis pas du tout obscène, je suis comme les autres, je comprends, mais moi, je suis un privilégié, j'ai bien compris tout ça. Moi, je passe mon temps à attaquer. On a fait une vidéo sur L214 pour attaquer les vins industriels. J'ai vu l'autre jour Au nom de la terre, j'étais en pleurs, j'ai rencontré des paysans. On est toujours ces contradictions permanentes, attaquer des gens qui essayent de bien faire leur métier avec du cœur, qui travaillent beaucoup plus que vous, qui gagnent beaucoup moins d'argent que vous. Mais ça m'empêche pas de le dire. Voilà, et je fais partie de ce monde. Moi aussi, je suis aussi. Moi, vous imaginez, moi, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Moi, je suis la génération qui est cette croissance. C'est ma génération qui est responsable de ce qui est en train d'arriver en ce moment.
Mathilde Dimer sur le Black Friday.
Mais le Black Friday, c'est l'exemple même qui montre que les Français aujourd'hui ont conscience qu'il y a un problème sur le changement climatique. Moi, ce qui m'a frappé après la fin du premier week-end de la Convention citoyenne pour le climat, où c'est une sorte de mini-France, c'est en fait, ils nous ont tous dit, ou la grande majorité d'entre eux, on s'est pris une baffe. Pas une baffe parce qu'on nous a appris qu'il y avait un problème, une baffe parce qu'on nous a appris l'urgence du problème et l'intensité de ce problème. Et c'est ça que, je pense, beaucoup de gens n'ont pas saisi encore, parce que beaucoup de gens n'ont pas lu, parce que c'est chiant à lire les rapports du GIEC, n'ont pas entendu ce que certains médias peuvent faire. Je pense que les médias aussi n'en parlent pas suffisamment, disent pas aussi clairement la vérité, et qu'il y a un gros enjeu, même s'il y a des efforts qui sont faits.
Je vais pas défendre les médias bêtement, mais là, honnêtement, vous trouvez que les médias ne parlent pas assez d'écologie?
Je dis qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits ces dernières années, et je salue le travail qui est fait. Néanmoins, je trouve qu'on pourrait aller plus loin. Moi, je vois, pardon, hein, mais les 150 citoyens tirés au sort n'arrêtent pas et ne cessent de demander plus de couverture médiatique des médias. C'est un travail incroyable qu'ils font. Ils se donnent à fond. ce qui se passe entre la détermination qu'ils ont, l'intelligence collective en action, qui est entre des gens qui sont hyper différents et qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est des auxiliaires de vie, c'est des employés, c'est des pilotes d'avion, c'est des chirurgiens, c'est des employés de grandes boîtes qui ensemble, pour une fois, échangent, discutent, se respectent, s'engueulent parfois, et arrivent à des propositions communes qui demandent à avoir plus de médiatisation, qui font un boulot monstre. Et derrière, je dis pas que les médias en général ne font pas leur boulot, il y en a plein qui le font. Je dis que si certains veulent se saisir et en faire plus, je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. Et c'est compliqué, parce que c'est quelque chose d'inédit. Et c'est pas très sexy d'avoir des citoyens qui délibèrent. C'est jamais très marrant.
Mais c'est surtout qu'on attend vos conclusions en janvier pour en parler, pour savoir on va pas vous suivre au jour le jour dans vos délibérations. Pour l'instant, vous travaillez, vous allez sortir vos conclusions dans un mois, en janvier, et je pense que la plupart des médias seront là pour couvrir les conclusions de la Convention des 150.
Mais je pense que c'est important aussi d'expliquer le processus. Moi, je vois beaucoup de questions qu'on a.
Ça, on l'aurait fait aussi d'ailleurs, avec Loïc Blondiaux.
C'est pas du tout France Inter que je vise en disant ça, et c'est pas.
Non, mais on se défend pas.
Non, mais en même temps, qu'est-ce qui est dangereux d'ailleurs pour le gouvernement? Qu'est-ce qu'on va faire de ces conclusions? Vous savez, énormément médiatisé, et ça qui va être génial, parce que là, le gouvernement va être au pied du mur.
Alors justement, le Emmanuel Macron a promis de regarder ça de très près, le fruit de vos travaux, d'en respecter l'esprit et de le traduire, que ce soit sous forme de loi pour un certain nombre de mesures possibles ou de référendum. Est-ce qu'à ce stade, à choix multiples éventuellement, est-ce qu'à ce stade, les débats, Mathilde Himmer, ont déjà débouché sur des points durs qu'il faudra faire trancher par les citoyens français globalement par le vote.
Alors c'est trop tôt pour dire, et c'est pas à moi de le dire. C'est-à-dire qu'à la fin du processus, là on est à mi-parcours, à la fin du processus, c'est aux 150 citoyens qui ressortent de prendre chacune de leurs mesures et de dire voilà, celle-là nous on pense, elle a fait beaucoup de débats entre nous, qu'il faut qu'elle passe au référendum et que l'ensemble des Français se positionnent. Celle-là, elle est plutôt consensuelle, elle doit être prise rapidement, c'est la voie réglementaire. Celle-là, on a le temps du débat, c'est la voie parlementaire. Et juste un mot sur cette convention citoyenne par rapport aux élus, parce qu'il y en a un certain nombre qui s'inquiètent, qui ont l'impression qu'on leur dépossède de quelque chose de leur pouvoir. Non. Moi, je pense profondément que croire ça, c'est pas avoir compris la crise démocratique dans laquelle on est, où aujourd'hui, ce type de processus peut au contraire rabibocher, réconcilier citoyens et élus, en complétant finalement la démocratie représentative qui est malade. On le voit, les taux, que ce soit les taux d'abstention, que ce soit la montée du populisme. Il faut réussir à répondre à une attente d'une société qui est beaucoup plus, qui a un niveau d'éducation beaucoup plus élevé qu'auparavant, et qui a pris l'habitude de donner son avis, que ce soit sur les réseaux sociaux, via la presse ou autre.
Alors, il y a évidemment énormément de questions ce matin des auditeurs de France Inter. On ne pourra pas, suite au mouvement social que traverse Radio France, diffuser les questions à l'antenne, mais je peux vous en lire déjà un certain nombre. La première pour vous, Mathilde Himmer, quelles sont les réflexions actuelles de la Convention sur la compatibilité entre la croissance du PIB et les objectifs climatiques?
Alors, c'est sur la table, c'est-à-dire dès le premier week-end.
Énorme question.
Dans les blocages qu'ils ont identifiés, les 150, la question de la croissance était présente. Il y a une réflexion aussi sur, finalement, est-ce que les indicateurs qu'on utilise, indicateurs du PIB, est le bon? Savoir à quoi ce sur quoi ils vont atterrir aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Au-delà de cette question-là, qui est hyper importante, parce que c'est quand même dans quel scénario on se met finalement. Les propositions qui sont sur la table, il y a tout aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va de réviser la Constitution, l'article 1, pour mettre le changement climatique et les limites planétaires dedans. Ça va, comment est-ce qu'on réglemente la publicité en lien avec le Black Friday sur les produits les plus polluants. Ça passe évidemment sur les questions des financements. Comment est-ce qu'on flèche les investissements publics ou privés vers la transition écologique? Est-ce qu'il faut sortir ou pas des 3% de Maastricht, les investissements verts?
Et la taxe carbone, elle est sur la table,
La taxe carbone, j'ai envie de dire, je vais être très clair là-dessus. C'est ni le gouvernement, ni le comité de gouvernance, ni la Cour des comptes, ni moi ce matin, qui veut dire ce que ces 150 citoyens doivent en faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'instar de la société française, c'est un sujet épidermique au sein des 150. C'est sur la table dans le sens où on avait créé 5 groupes de travail, proposé aux 150 citoyens de bosser avec 5 groupes de travail. Ils nous ont demandé d'en mettre d'en créer un de plus, qui est un groupe transversal dans lequel ils ont mis trois sujets. La question de la constitution, la question des financements, dans lequel est-ce qu'il y aura la taxe carbone ou pas, c'est à eux de choisir. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait à la fin certainement un signal prix et des financements, à eux de définir comment est-ce qu'ils veulent trouver ces sources de financement-là.
Bon, Yann Arthus-Bertrand, vos propos font énormément réagir. Et alors, j'ai trois pages de questions, je dois dire, assez agressives à votre encontre. Et ben, vous n'allez pas être déçus. Ce matin, la génération des baby-boomers qui a profité un maximum nous explique, après s'être bien amusé en voyageant partout dans le monde, que l'on doit vivre comme leurs grands-parents. J'entends Yann Arthus-Bertrand sur France Inter et je crois bien que Hockey Boomer a été inventé pour lui. On a envie de dire, monsieur Arthus-Bertrand, Hockey Boomer, à 75 ans, après avoir visité le monde entier et bien utilisé l'avion et l'hélicoptère, 10 fois plus polluant, est-ce qu'il ne serait pas en train de faire un peu de morale mal placée? Mais vous en voulez d'autres ou pas?
Je parle de moi, je parle pas des autres. Tout le monde peut prendre
l'avion. Il parle de vous aussi.
Non, mais moi, je peux prendre des décisions. Et prendre des décisions, mais je le dis bien, à 73 ans, vu ce que j'ai émis comme carbone, je suis le premier à le faire. Bien sûr qu'on peut continuer à prendre l'avion. Mmh. On peut réfléchir à son utilité. J'ai dit par hasard que j'ai arrêté de prendre l'avion, m'avait invité, donc j'assume, mais j'ai pas du tout été faire une annonce à l'AFP que j'ai arrêté de prendre l'avion. Vraiment, c'est quelque chose que je voulais, qui est très personnel et privé à la limite.
Beaucoup de questions aussi sur vos livres, votre parcours. Avez-vous calculé le bilan carbone les livres imprimés en Chine? Allez-vous mettre votre enrichissement personnel au service de la sauvegarde de la planète? Voilà les questions qui sont sur l'application de France Inter.
Ça fait 20 ans que je suis attaqué par j'ai pas envie de répondre à ces questions. Ce que je veux dire, c'est que...
Non, mais elles sont intéressantes.
Non, mais c'est normal que je sois attaqué,
oui,
puisque j'ai beaucoup profité, et je suis un privilégié, mais bon, voilà.
Vous en avez marre de ces attaques?
Pas vraiment, je les ai acceptées, elles sont souvent d'ailleurs, les gens ont raison quelque part. Voilà, donc je l'accepte. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je me réfugie un peu dans ce qu'on fait avec la Fondation, qu'on essaye de... On a ouvert un endroit gratuit, ouvert à tous, qui est ouvert, où on parle des réfugiés, c'est dans le bois de Boulogne, on parle de la cuisine, on a lancé dernièrement dans toutes les écoles des France des kits de 17 posters, 80 000 kits sur les ODD, les développement durable, que toutes les écoles peuvent aller chercher au centre Canopée ou les chercher, voilà, à la Fondation. Donc voilà, j'essaye de faire ce que je peux, et c'est normal qu'on soit critiqué.
Mathilde Himmer.
Je crois que le temps de se taper les uns sur les autres, il est dépassé. Et que les gens aient raison ou tort. C'est-à-dire que oui, ces critiques, elles sont certainement, il y a certainement un fond de vrai, de la même manière que quand les écolos nous disent cette convention, c'est une perte de temps, on connaît déjà les solutions. Mais c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir raison et d'être tout seul et de rien transformer? Ou c'est au contraire de réussir à embarquer une société et de transformer réellement les choses? Je pense qu'on est là, donc faut saluer toutes les bonnes initiatives qui vont dans le bon sens. Moi, je salue le fait que Yann arrête de prendre l'avion. Je serai la première à dénoncer si tu le reprends demain. Voilà, je pense qu'il faut prendre tout ce qui va dans le bon sens.
Une dernière question très forte sur l'application. Comment peut-on faire, je vous l'adresse, Mathilde Himmer, comment peut-on faire une transition écologique quand on est pauvre?
Mais c'est toute la question. Enfin, vraiment, moi, ce qui m'a
conforté... Peut-être c'est riche de la faire d'abord. Gens qu'on est
Mathilde
moyens,
Himmer,
tout le monde ne peut pas la faire.
Finissez.
Ce qui m'a conforté dans le fait de lancer cette convention citoyenne pour le climat, c'est d'entendre Agnès, une gilet jaune, qui m'a regardé les yeux dans les yeux en me disant « Moi j'ai envie d'être écolo, mais en fait je peux pas, j'ai 3 enfants à nourrir et le poulet Lidl je peux pas m'en passer ». Et ben cette phrase-là, moi demain je veux que dans mon pays, ça n'arrive plus. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à regarder les travaux de la Convention citoyenne qui vise justement à faire des mesures structurantes dans un esprit de justice sociale pour lutter contre le changement climatique. Soutenez-les. Ça prend 2 minutes de faire un post sur les réseaux sociaux pour leur dire bravo pour votre travail, on soutient, on avance, on est derrière vous.
C'est tellement juste ce qu'elle dit, je suis ému en l'écoutant. C'est vraiment ce que tu dis, c'est bien. Depuis le début, voilà, tout simplement.
Allez, vous dites c'est aux riches de commencer à donner l'exemple et de commencer à faire leur conversion écologique.
Vous savez, je crois qu'un Américain il consomme 20 en carbone, un Français 10, et au Bangladesh c'est 0,6. Donc voilà, c'est ceux qui émettent le plus de carbone de faire un effort.
Merci à tous les deux, Mathilde Himmer, Yann Arthus-Bertrand. Mathilde Himmer, on va continuer à suivre les travaux de la convention. On l'a déjà fait, même avant, et on sera là au rendez-vous du mois de janvier. Merci à tous les deux d'être venus au micro d'un